Deuxième sous-partie, les préparatifs d'une lutte. Chapitre 16. Comment un loup-cervier rencontra le rat, et ce qui en advint. Dans ces circonstances, par une belle nuit du mois de juin, le baron de Nucingen revenait à Paris, de la terre d'un banquier étranger établi en France, et chez lequel il avait dîné. Cette terre est à 8 lieues de Paris, en pleine Brie. Or, comme le cocher du baron s'était vanté d'y mener son maître et de le ramener avec ses chevaux, ce cocher prit la liberté d'aller lentement quand la nuit fut venue. En entrant dans le bois de Vincennes, voici la situation des bêtes, des gens et du maître. Libéralement abreuvé à l'office de l'illustre autocrate du change, le cocher, complètement ivre, dormait, tout en tenant les guides à faire illusion aux passants. Le valet, assis derrière, ronflait comme une toupie d'Allemagne, pays des petites figures en bois sculptées, des grands Rheinganum et des toupies. Le baron voulut penser, mais dès le pont de Gournay, la douce somnolence de la digestion lui avait fermé les yeux. À la mollesse des guides, les chevaux comprirent l'état du cocher. Ils entendirent la basse continue du valet en vigie à l'arrière, ils se virent les maîtres et profitèrent de ce petit quart d'heure de liberté pour marcher à leur fantaisie. En esclaves intelligents, ils offrirent aux voleurs l'occasion de dévaliser l'un des plus riches capitalistes de France, le plus profondément habile de ceux qu'on a fini par nommer assez énergiquement des loups-cerviers. Enfin, devenus les maîtres et attirés par cette curiosité que tout le monde a pu remarquer chez les animaux domestiques, ils s'arrêtèrent dans un rond-point quelconque devant d'autres chevaux à qui sans doute ils dirent en langue de cheval « À qui êtes-vous? Que faites-vous? Êtes-vous heureux ?» Quand la calèche ne roula plus, le baron assoupi s'éveilla. Il crut d'abord n'avoir pas quitté le parc de son confrère. Puis il fut surpris par une vision céleste qui le trouva sans son arme habituelle, le calcul. Il faisait un clair de lune si magnifique qu'on aurait pu tout lire, même un journal du soir. Par le silence des bois, et à cette lueur pure, le baron vit une femme seule qui, tout en montant dans une voiture de louage, regarda le singulier spectacle de cette calèche endormie. À la vue de cet ange, le baron de Nucingen fut comme illuminé par une lumière intérieure. En se voyant admirée, la jeune femme abaissa son voile avec un geste d'effroi. Un chasseur jeta un cri rauque, dont la signification fut bien comprise par le cocher, car la voiture fila comme une flèche. Le vieux banquier ressentit une émotion terrible. Le sang qui lui revenait des pieds charriait du feu à sa tête. Sa tête renvoyait des flammes au cœur. La gorge se serra. Le malheureux craignit une indigestion, et malgré cette appréhension capitale, il se dressa sur ses pieds. « Ao crante calo, fichi pedate qui tort !» cria-t-il. « Sante frante, si ti attrape se défroidire !» À ces mots, sans franc, le cocher se réveilla. Le valet de l'arrière les entendit sans doute dans son sommeil. Le baron répéta l'ordre, le cocher mit les chevaux au grand galop et réussit à rattraper, à la barrière du trône, une voiture à peu près semblable à celle où Nucingen avait vu la divine inconnue, mais où se prélassait le premier commis de quelque riche magasin avec une femme comme il faut de la rue Vivienne. Cette méprise consterna le baron. « Si j'avais amené Georges, entre parenthèses prononcé Georges, au lieu de toi, grosse pète, il aurait bien s'y trouvé cette femme !» dit-il au domestique pendant que les commis visitaient la voiture. Eh, monsieur le baron, le diable était, je crois bien, derrière, sous forme d'éduc, et il m'a substitué cette voiture à la sienne. Le diable n'existe point, dit le baron. Le baron de Nucingen avouait alors 60 ans, les femmes lui étaient devenues parfaitement indifférentes, et à plus forte raison la sienne. Il se vantait de n'avoir jamais connu l'amour qui fait faire des folies. Il regardait comme un bonheur d'en avoir fini avec les femmes, desquelles il disait, sans se gêner, que la plus angélique ne valait pas ce qu'elle coûtait, même quand elle se donnait gratis. Il passait pour être si complètement blasé qu'il n'achetait plus, à raison d'une couple de 1 000 francs par mois, le plaisir de se faire tromper. De sa loge à l'opéra, ses yeux froids plongeaient tranquillement sur le corps de ballet. Pas une œillade ne partait pour ce capitaliste de ce redoutable essaim de vieilles jeunes filles et de jeunes vieilles femmes, l'élite des plaisirs parisiens. Amour naturel, amour postiche et d'amour-propre, amour de bienséance et de vanité, amour goût, amour décent et conjugal, amour excentrique, le baron avait acheté tout, avait connu tout, excepté le véritable amour. Cet amour venait de fondre sur lui comme un aigle sur sa proie, comme il fondit sur Gens, le confident de son Altesse le prince de Metternich. On sait toutes les sottises que ce vieux diplomate fit pour Fanny Elssler, dont les répétitions l'occupaient beaucoup plus que les intérêts européens. La femme qui venait de bouleverser cette caisse doublée de fer appelée Nucingen lui était apparue comme une de ces femmes uniques dans une génération. Il n'est pas sûr que la maîtresse du Titien, que la Mona Lisa de Léonard de Vinci, que la Fornarina de Raphaël, fussent aussi belles que la sublime Esther, en qui l'œil le plus exercé du Parisien le plus observateur n'aurait pu reconnaître le moindre vestige qui rappela la courtisane. Aussi le baron fut-il surtout étourdi par cet air de femme noble et grande qu'Esther, aimée, environnée de luxe, d'élégance et d'amour, avait au plus haut degré. L'amour heureux est la sainte ampoule des femmes. Elles deviennent toutes alors fières comme des impératrices. Le baron alla, pendant 8 nuits de suite, au bois de Vincennes, puis au bois de Boulogne, puis dans les bois de Ville d'Avray, puis dans le bois de Meudon, enfin dans tous les environs de Paris, sans pouvoir rencontrer Esther. Cette sublime figure juive qu'il disait être à une figure telle à Piple était toujours devant ses yeux. À la fin de la quinzaine, il perdit l'appétit. Delphine de Nucingen et sa fille Augusta, que la baronne commençait à montrer, ne s'aperçurent pas tout d'abord du changement qui se fit chez le baron. La mère et la fille ne voyaient M. de Nucingen que le matin au déjeuner et le soir au dîner, quand ils dînaient tous à la maison, ce qui n'arrivait qu'au jour où Delphine avait du monde. Mais, au bout de 2 mois, pris par une fièvre d'impatience et en proie à un état semblable à celui que donne la nostalgie, le baron, surpris de l'impuissance du million, maigrit et parut si profondément atteint que Delphine espéra secrètement devenir veuve. Elle se mit à plaindre assez hypocritement son mari et fit rentrer sa fille à l'intérieur. Elle assomma son mari de questions, il répondit, comme répondent les Anglais attaqués du spleen, il ne répondit presque pas. Delphine de Nucingen donnait un grand dîner tous les dimanches. Elle avait pris ce jour-là pour recevoir, après avoir remarqué que dans le grand monde, personne n'allait au spectacle et que cette journée était assez généralement sans emploi. L'invasion des classes marchandes ou bourgeoises rend le dimanche presque aussi sot à Paris qu'il est ennuyeux à Londres. La baronne invita donc l'illustre Desplein à dîner pour pouvoir faire une consultation malgré le malade, car Nucingen disait se porter à merveille. Keller, Rastignac, de Marsay, du Tillet, tous les amis de la maison avaient fait comprendre à la baronne qu'un homme comme Nucingen ne devait pas mourir à l'improviste. Ces immenses affaires exigeaient des précautions, il fallait savoir absolument à quoi s'en tenir. Ces messieurs furent priés à ce dîner, ainsi que le comte de Gondreville, beau-père de François Keller, le chevalier d'Espard, des Lupeaux, le docteur Bianchon, celui de ses élèves que Desplein aimait le plus, Beaudenord et sa femme, le comte et la comtesse de Montcornet, Blondet, mademoiselle Destouches et Conti. Puis enfin Lucien de Rubempré, pour qui Rastignac avait depuis 5 ans conçu la plus vive amitié. Mais par ordre, comme on dit en style d'affiche.